Et le journal est présenté par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. À Rouen, la ministre de la Santé reconnaît que la ville est clairement polluée, mais Agnès Buzyn veut malgré tout rassurer les habitants après l'incendie de l'usine Lubrizol. Les autorités ne peuvent pas garantir qu'il n'y a pas de risque pour la population, répond le directeur de l'association de défense de l'environnement, Robin des Bois, Jackie Bonnemain, on l'entendra.
Les hommages se poursuivent en mémoire de Jacques Chirac après la mort de l'ancien président jeudi.
Dans ce journal, nous nous intéresserons à son action dans la lutte contre le VIH. Analyse à suivre avec Tara Schlegel.
En Afghanistan, plusieurs explosions ont retenti tôt ce matin, jour de scrutin pour l'élection présidentielle.
Moins d'une heure après l'ouverture des bureaux de vote, plusieurs villes d'Afghanistan auraient été touchées, notamment Kandahar. Il y aurait une quinzaine de blessés selon les premiers éléments. Explosion aussi à Kaboul. Nous ferons le point avec notre correspondante sur place, Sonia Ghezali. Et puis nous irons aussi aux États-Unis où les démocrates sont déterminés à poursuivre leur enquête pour aller vers une procédure de destitution du président Donald Trump. Les Américains restent très partagés sur la question. Reportage devant les grilles de la Maison Blanche hier avec Grégory Philips dans un instant.
Et puis après votre journal, hier, après un peu plus de 3 jours de discussion, les députés ont voté en première lecture l'article 1er du projet de loi sur la bioéthique qui prévoit d'étendre aux femmes célibataires et aux couples de lesbiennes l'accès aux techniques de procréation médicalement assistée. Notre invité sera le rapporteur de la mission d'information sur la loi bioéthique, le médecin Jean-Louis Touraine, député du Rhône, La République En Marche.
Oui, au chapitre de la santé, Caroline, à Rouen, beaucoup d'habitants s'inquiètent encore. Ils portent des masques pour tenter de se protéger alors que l'odeur d'œuf pourri persiste après l'incendie de l'usine Lubrizol, classée Céveso, dans la nuit de mercredi à jeudi. Ces émanations provoquent des nausées, des maux de tête. 3 ministres étaient à Rouen hier, la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a voulu rassurer la population.
Il y a des suies, et donc la ville est clairement polluée. Ces suies, il faut imaginer cela comme des galettes, par exemple, de goudron sur les plages. Si on voit des galettes de goudron sur les plages, on demandera aux enfants de ne pas les toucher et de se laver les mains. Je comprends que la population s'étonne de l'odeur persistante, mais il y a sur le site encore énormément de produits chimiques qui ne sont plus en flammes, mais qui sont endommagés. Le contenu de ces suies sera rendu public, et pour l'instant, nous n'avons pas d'inquiétude sur les premiers prélèvements. J'ai été très troublée, effectivement, de voir que certaines personnes portaient des masques. Ce sont des gens qui l'ont demandé parce qu'ils se sentent visiblement incommodés par les odeurs. Moi, je comprends la population. Il y a une odeur persistante, on la sent quand on arrive. Une odeur un peu d'œuf pourri. Ce sont des odeurs de soufre. Ce ne sont pas des produits qui entraînent des conséquences à long terme, mais ils peuvent être irritants sur le moment et c'est incommodant.
Des propos qui n'ont pas suffi à rassurer Jackie Bonnemain, directeur de l'association de défense de l'environnement Robin des Bois. Il était l'invité du journal de 22h hier soir sur France Culture.
Les pouvoirs publics sont dans le brouillard parce qu'ils ne savent pas exactement la quantité et la diversité des substances dangereuses qui sont parties en fumée et en effluents liquides. Cependant, puisque Lubrizol mettait en œuvre une grande quantité de substances cancérogènes, toxiques, mutagènes, irritantes, corrosives, eh bien évidemment, on peut penser que dans le panache, il y a des particules toxiques qui se sont abattues effectivement ici et là, dans des champs, dans des abreuvoirs, sur des vaches. On souhaite que le préfet émette un arrêté préfectoral obligeant Lubrizol à faire une série de prélèvements dans les environs de Rouen. Et là, on voit qu'on retrouve des projections de Lubrizol 30 km au nord de Rouen. Donc, je crois que faire confiance à Lubrizol, c'est extrêmement difficile, d'autant que leur site est situé dans un milieu urbain et que, justement, ils devraient faire preuve de beaucoup de vigilance pour réduire les conflits entre les activités tertiaires, résidentielles et les activités industrielles.
Jackie Bonnemain, directeur de l'association de défense de l'environnement Robin des Bois, répondait à Clarence Rodriguez. Lorsqu'on nous dit qu'il n'y a pas de toxicité aiguë, il y a quand même de la toxicité, qu'on le veuille ou non, a réagi Karima Delli, la députée européenne Europe Écologie Les Verts. L'extension de la PMA pour toutes les femmes a été donc votée hier sous les applaudissements à l'Assemblée nationale. Un vote dans un hémicycle clairsemé. L'article 1 de la loi bioéthique a été adopté avec 50 voix pour, 17 contre et 3 abstentions. Les femmes célibataires et les couples de lesbiennes auront donc elles aussi accès à la procréation médicalement assistée. Juste après ce journal, votre invité Caroline sera Jean-Louis Touraine, médecin et député LREM, rapporteur de la loi bioéthique.
En attendant, il est 8h05 sur France Culture. À la une de l'actualité, les hommages se poursuivent en mémoire de Jacques Chirac.
Oui, plus de 2000 personnes ont déjà signé les livres d'or à l'Élysée. Et jusqu'à demain, les portes sont ouvertes et tout ce week-end, les hommages se poursuivent. Parmi les domaines qui ont marqué la présidence de Jacques Chirac, plusieurs associations ont salué son action contre le VIH, Tara Schlegel.
Les ONG qui travaillent aux côtés des malades saluent le leadership exercé par Jacques Chirac. Aurélien Bocan préside l'association AIDE.
C'est l'un des tout premiers dirigeants au monde à avoir dénoncé le cataclysme humain. C'est ce que représentait finalement l'épidémie du sida au début des années 90. Et puis surtout, en 97, c'est l'initiateur du Fonds de solidarité thérapeutique pour l'accès en fait au traitement, les fameuses trithérapies, dans les pays en développement.
Ce fonds de solidarité financera les tout premiers médicaments pour les pays pauvres et deviendra ensuite le Fonds mondial de lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose, mécanisme international dont Jacques Chirac double d'ailleurs la dotation pour la France quelques années plus tard. Mais ce n'est pas tout. En 2006, l'ancien président et le Brésilien Lula ont l'idée de prélever une somme infime sur les billets d'avion. Cette taxe abondera un fonds de solidarité pour le développement dont une partie permet de financer jusqu'à aujourd'hui l'initiative United. United ne se contente plus d'apporter les traitements aux pays du Sud, mais bien les toutes dernières innovations thérapeutiques pour que même dans ces pays-là, les malades résistants aux traitements de première et deuxième ligne ne soient pas abandonnés. La France, à elle seule, donne 210 millions d'euros grâce à cette taxe chaque année. Cela dit, Aurélien Bocan, président de AIDE, veut aussi rappeler un autre pan de la politique chiracienne.
Jacques Chirac, ce sont aussi des politiques migratoires qui sont très dures parce que c'est le premier à parler d'expulsion de personnes séropositives dans les années 90, alors qu'on savait pertinemment que dans les années 90, il n'y avait pas de traitement disponible dans les pays d'origine des personnes séropositives, donc on les envoyait directement à la mort. Donc on voit bien qu'il y a une dichotomie entre finalement la lutte internationale de lutte contre le VIH et finalement ce qui se passe en France qui, pour moi, sont quand même des stratégies qui restent très, très bassement politiques.
Voilà donc pour les deux faces qu'enfin politique, Jacques Chirac a toujours su combiner.
Tara Schlegel, une cérémonie populaire aura lieu aux Invalides demain à 14h en mémoire de Jacques Chirac. C'est fini pour Aigle Azur. Hier soir, le tribunal de commerce d'Evry n'a retenu aucune offre de reprise. Les 1150 salariés de la compagnie vont donc être licenciés. On y reviendra dans le journal de 9h sur France Culture. Alors que c'est aujourd'hui aussi la date butoir pour XL Airways qui espère toujours trouver un repreneur. Au niveau de l'industrie aéronautique, cette fois, les ventes d'avions continuent, elles, d'augmenter de 6% par an. Les avions représentent 2% de la pollution mondiale d'émissions de CO2, alors que les manifestations contre le dérèglement climatique se multiplient. Air France tient donc à peaufiner son image en mettant en avant l'acquisition de son premier Airbus A350, moins gourmand en kérosène. Reportage à Toulouse d'Hakim Kasmi.
Au nom de tout mon équipage et de l'ensemble de la compagnie Air France, je vous souhaite la bienvenue à bord de ce vol inaugural.
Bienvenue à bord de l'A350 d'Air France, un avion moderne qui, grâce à son fuselage en composite, consommera moins de carburant et sera donc moins polluant. Anne Rigaille, la directrice générale d'Air France.
Le premier, c'est moins 25% de consommation de carburant en moins, ce qui va évidemment aider à diminuer notre empreinte carbone. Et c'est un avion qui consomme 2,5 litres au 100, donc qui va baisser notre moyenne de consommation.
Un avion plus propre, mais aussi plus confortable et connecté, avec du Wi-Fi, et qui sera payant. Amélie Ogadez, la chef de cabine.
Les coffres à bagages sont assez hauts, la cabine est beaucoup plus large, donc on a une sensation de confort et de volume inhabituelle et agréable.
Du confort pour les passagers, mais aussi plus de sécurité, avec un cockpit totalement renouvelé. Pascal Urugori, le commandant de bord de la 350.
Un avion absolument connecté, alors ça c'est un plus extraordinaire aussi, on a accès aux cartes météo en temps réel, c'est-à-dire nous on fait souvent sur des vols long courriers sur l'Afrique par exemple, avec des météos très défavorables, je pourrais avoir directement la dernière photo satellite, je saurais où sont les menaces pour mon avion. Et je peux établir des stratégies à plus ou moins long terme pour éviter tout ça.
Désormais, destination Bamako et Abidjan pour la 350. Au total, Air France a commandé 28 appareils de ce type.
Reportage signé Hakim Kasmi pour France Culture. Près de 500 000 personnes ont défilé hier à Montréal aux côtés de la militante suédoise Greta Thunberg dans le cadre d'une nouvelle grève mondiale pour le climat. Selon les chiffres des organisateurs de la manifestation, la police n'a pas donné de chiffres officiels. Cette semaine, les leaders du monde entier se sont réunis à New York. Ils nous ont déçus une fois de plus avec leurs paroles creuses et leurs plans insuffisants, a lancé la jeune égérie de la lutte contre le dérèglement climatique en évoquant le sommet de l'ONU sur le climat en début de semaine.
Toujours dans l'actualité internationale, plusieurs explosions ont eu lieu en Afghanistan ce matin alors que se tient l'élection présidentielle.
Une explosion notamment dans un bureau de vote à Kandahar, dans le sud du pays. Les talibans ont revendiqué aussi des attaques à Ghazni. À Kaboul, Sonia Ghezali nous appelle depuis un bureau de vote.
Depuis le centre de Kaboul, on a en effet entendu au moins une grosse explosion au loin. Elle se serait produite dans un bâtiment en construction près d'un lycée dans le nord de la ville. Explosion due à des engins improvisés, selon des sources sécuritaires qui disent qu'il n'y a pas de victimes pour l'instant. Ce scrutin se tient sous haute tension. D'autres explosions ont été rapportées dans le sud et l'est du pays, à Jalalabad et Kandahar. Les talibans ont prévenu qu'ils s'attaqueraient aux bureaux de vote et aux forces de sécurité. Kaboul ressemble à une ville fantôme, quadrillé par la police et par l'armée. Mais le climat sécuritaire risque d'avoir un impact certain sur la mobilisation des électeurs. Jusque-là, il y a très peu d'affluence dans les bureaux de vote.
Sonia Ghezali, depuis Kaboul pour France Culture. Un scrutin qui se tient donc sous la triple menace des attentats des talibans, de la fraude et de l'abstention. À Kaboul, Valérie Kroba est allée à la rencontre des habitants qui iront voter aujourd'hui malgré la peur.
Sur les lampadaires au carrefour des avenues, les photos des 18 candidats s'affichent. Sur une grande pancarte, une femme au visage dessiné glisse son bulletin dans l'urne. Malgré la peur des attentats, Palwasha Hassan ira voter. C'est un devoir pour cette militante des droits de l'homme, dont la sœur, députée au Parlement, est régulièrement menacée de mort par les talibans.
Lors des dernières élections, le nombre de femmes qui se sont rendues aux urnes était incroyable. Les gens comme moi, nous voulons aller voter car on veut que la démocratie continue. Le changement de pouvoir ne peut se faire que par les urnes et non par les combats.
Dans ce quartier de l'ouest de Kaboul, un kamikaze s'est fait exploser début août. L'attentat a fait 14 morts et plus d'une centaine de blessés. Mariam, 25 ans, a été candidate aux législatives d'octobre dernier. La sécurité n'est pas son unique préoccupation.
Le problème, ce n'est pas uniquement les talibans. En tant que citoyenne d'Afghanistan, ce qui compte pour moi, c'est que l'élection soit transparente. J'insiste, elle doit être transparente. Si c'est le cas, alors j'irai voter.
Les précédentes élections ont été entachées d'irrégularités. La commission électorale indépendante a promis que cette fois, les fraudes ne se répéteraient pas.
Valérie Krova. Aux États-Unis, les démocrates sont toujours déterminés à poursuivre leur enquête. Une première étape vers une procédure de destitution du président américain. En cause, le coup de téléphone fin juillet entre Donald Trump et son homologue ukrainien, durant lequel Donald Trump a demandé des informations sur son rival politique Joe Biden. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, veut aller vite maintenant, alors que dans les derniers sondages, les Américains restent partagés sur cette question de l'impeachment, la destitution. 93% des sympathisants républicains y sont, eux, fermement opposés. À Washington, c'est un reportage de Grégory Phillips.
Devant les grilles de la Maison-Blanche, à 200 mètres environ à vol d'oiseau du bureau ovale, le débat est vif. Pourquoi vouloir destituer quelqu'un qui fait tant pour ce pays? Dit Kemp, venu de Pittsburgh. Je crois que les démocrates ont peur d'une chose, que cet homme accomplisse sa promesse, rendre sa grandeur à l'Amérique. Ni républicain, ni démocrate, John se présente ainsi. Je viens du Texas rural, j'adhère à la NRA, je porte une arme. Mais John, le conservateur, donc, est choqué par les révélations de l'affaire ukrainienne. Cet homme est un criminel. Vous n'avez pas le droit de faire chanter un pays allié en vue d'obtenir des informations compromettantes sur votre adversaire politique. Venu d'Oklahoma, républicain depuis toujours, Tracy semble partagé. Ok, Trump a fait une erreur, mais ce n'est pas un professionnel de la politique. Il n'a pas menacé l'Ukrainien, il a juste demandé un service. D'un autre côté, les démocrates ne lui ont jamais donné sa chance. Ils l'attaquent depuis le premier jour. Donald Trump, lui, ne décolère pas. Hier, sur Twitter, il écrivait « Cette conversation avec le président ukrainien était parfaite, le tout en lettres majuscules et avec un point d'exclamation ».
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. On apprend ce matin que l'émissaire américain pour l'Ukraine, cité dans ce scandale impliquant Donald Trump, a démissionné. Le temps pour votre samedi, des averses sur le nord du pays le matin, un temps plus dégagé l'après-midi, davantage de soleil, plus on descend vers le sud, les températures sont douces, elles sont comprises entre 15 et 24 degrés, avec 15 degrés à Saint-Malo et à Amiens, 17 degrés à Paris, à Lyon aussi, 18 degrés à Bordeaux, 23 degrés ce sera pour Nîmes et jusqu'à 25 degrés à Nice.